Un moment pour la Terre, une émission mensuelle, chaque dernier mercredi du mois, de 9h15 à 10h sur Fréquence Mistral 99.3. Cette émission mensuelle est proposée par France Nature Environnement 04 pour mieux connaître les moyens et les raisons de préserver la nature. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois de 9h15 à 10h sur Fréquence Mistral 99.3.
Et c'est tout de suite, bonjour, donc Léa Longo et Adrien Béjot pour nous parler de quel sujet aujourd'hui ?
Bonjour, bonjour Odile, bonjour Adrien.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une actualité qui a eu lieu ce week-end, donc ce sont les marches pour le climat. Et plus généralement, on va se demander comment agir aujourd'hui pour l'écologie. Quelle solution s'offre à nous ? Qu'est-ce qui est efficace ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord commencer par un petit rappel sur l'actualité. Même si on en a tous, j'imagine, beaucoup entendu parler ces derniers temps, il y avait donc une marche pour le climat organisée ce dimanche 28 mars, qui était un appel national de plus de 650 organisations, donc c'est quand même un record, dont France Nature Environnement national, régional et FNE04 évidemment. Donc en quelques chiffres, ce sont 110 000 participants qui ont été recensés dans toute la France selon les organisateurs. Donc c'était par ville. Donc il y a eu plus de 200 marches dans toute la France. Et à notre niveau, donc, il y a eu la marche de Manosque qui a réuni environ 150 participants et où les bénévoles de FNE04 ont participé. Il y en a eu également à Aix, Marseille. Donc, quel était l'objectif de cette marche particulière ? C'était donc le contexte de la loi climat et résilience qui entre depuis ce lundi en discussion au Parlement. Donc ce sont des mesures qui sont prises pour lutter contre le réchauffement climatique, mais qui sont jugées insuffisantes. Parce qu'il y a 2 ans, le président avait initié la Convention citoyenne pour le climat en tirant au sort 150 citoyens pour qu'ils proposent des mesures concrètes en faveur de la transition. Et le président s'était engagé à faire passer ces mesures sans filtre par le Parlement, en faire une loi. Et donc les citoyens qui ont travaillé sur ces questions et qui ont été tirés au sort aujourd'hui déplorent que ces mesures ne sont pas reprises et qu'il y a un manque d'ambition notoire dans la loi. Donc c'est les citoyens de la convention eux-mêmes qui le disent. Donc sur les 149 mesures de la convention citoyenne qui ont été proposées aujourd'hui, elles sont très peu reprises et repoussées. Il y a beaucoup d'analyses disponibles sur ces questions. Et on voit qu'elles sont minimisées, réduites, repoussées. Selon, par exemple, France Info, parce qu'il y a beaucoup d'analyses, seules 46 mesures proposées dans la Convention citoyenne sont reprises dans la loi climat et résilience. Mais pour la plupart, elles sont modifiées. Par exemple, la consigne de verre est repoussée. Pour l'avion, les citoyens proposaient que les vols internes de 4 heures, lorsqu'il existe une solution, soient supprimés. Le gouvernement s'est limité à 2h30. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, cette loi climat et résilience était très attendue par les citoyens, par les associations, et qu'elle est quand même relativement bien en deçà des enjeux. Ce qui explique du coup la mobilisation des marches pour le climat, qui du coup est une mobilisation assez récente, qui a bien sûr été un peu entravée par la pandémie cette année. Et donc ce 28 mars, c'était vraiment le retour des marches pour le climat. Et au-delà de cette actualité, en fait, c'est intéressant de se demander comment agir pour l'écologie. Quels sont les moyens d'action et également quelle est la place de la jeunesse dans tout ça, parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc je vais d'abord revenir sur le petit historique des marches pour le climat en France. Et Adrien s'interrogera donc sur les actions qui sont possibles en faveur de l'écologie. Et enfin, on reviendra sur le rôle de la jeunesse. Donc, tout d'abord, ces marches pour le climat sont très médiatisées, très très populaires, et elles ont pour but de mettre au cœur du débat les questions écologiques, d'inciter les pouvoirs publics à prendre des mesures à la hauteur. Et on voit que ces mobilisations, quand même, cette forme-là est assez récente, ça date des années 2010. Et ça répond à des appels du coup internationaux, nationaux, mais aussi locaux. La première grande marche pour le climat qu'on peut souligner date du 21 septembre 2014 avec le sommet de l'ONU sur le changement climatique. Et s'en étant suivi en novembre 2015, la COP21 de Paris avec une grande marche également. Et depuis 2018, on voit une accélération, donc avec notamment le rapport sur le réchauffement climatique du GIEC. Il a appelé des mobilisations à l'international. Mais depuis 2019, on a vu l'affaire du siècle en France particulièrement, qui a beaucoup, beaucoup attiré la mobilisation populaire. Et de l'autre côté, les grèves scolaires, donc l'appel de Greta Thunberg à faire la grève scolaire le vendredi et à manifester, qui du coup s'est beaucoup répandu en Europe et dans le monde et qui l'a touché particulièrement les jeunes. Mais si en 2019 on voit une énorme effervescence de ces mobilisations populaires dans la rue, on voit qu'elles s'arrêtent en 2020 pour des raisons évidentes. Et donc mars 2021, c'était vraiment important parce que c'est vraiment la reprise de ces mobilisations. Donc encore une fois, à l'occasion d'un grand événement qui est donc l'analyse de la loi climat et résilience en France. Donc au niveau de ces marches, c'est un mouvement très récent. Donc c'est assez difficile de savoir. Enfin, il y a des débuts d'études sur qui sont les manifestants, qui va à ces marches, mais les études restent quand même assez récentes vu que c'est un mouvement assez récent. Donc on a des sociologues qui sont penchés sur la question et qui sont allés dans ces marches et qui ont interrogé les participants. Et en ressort tout de même que ce sont des personnes de gauche, voire d'extrême gauche, pour 75%, les personnes interrogées s'identifient dans des mouvements de gauche. Et c'est un milieu assez féminin. Et surtout, quelque chose de surprenant, c'est que c'est assez intergénérationnel. On s'attendait, les sociologues le disent eux-mêmes, donc Maxime Gabory et Yann Lelanne, s'attendaient quand même à trouver un peu la jeunesse. Et au final, on trouve surtout des classes assez aisées et pas particulièrement jeunes dans les marches pour climat. Bien entendu, les grèves scolaires, c'est la jeunesse. Et dans ces profils, ils ont réussi à identifier des profils un peu radicaux qui pencheraient pour la désobéissance civile, et des profils beaucoup plus modérés qui prônent un changement progressif de consommation, des mesures politiques peu à peu, bien que tout le monde dans ces marches reste assez critique du système capitaliste. Donc ce qui est assez intéressant dans ces marches, c'est qu'il y a différents profils et que c'est intergénérationnel et qu'on ne retrouve pas... Enfin, la jeunesse est présente, on y reviendra, mais elle n'est pas exclusive. On peut d'office souligner quelques critiques à ce mode d'action. Donc là, c'est une historienne qui s'appelle Valérie Chansigo qui a un petit peu écrit sur le sujet et qui montre que ces marches pour le climat dénoncent, revendiquent, mais peinent à faire des propositions concrètes et une alternative commune. Et il n'y a pas vraiment de consensus sur ce qui est recherché, vu que les sensibilités des manifestants sont un peu diverses. Et donc il y a un certain manque de politisation du mouvement. Et qu'en France, elle explique que la question sociale et la question de la protection de la nature ont souvent du mal à se rejoindre. Et donc du coup, que l'intégration de l'écologie en politique, c'est quelque chose de tout de même relativement récent. Donc il y a un manque notoire de structuration idéologique. Donc si ces mobilisations citoyennes, ces marches dans la rue, permettent d'enrichir les débats, d'entrer dans l'espace public, et ça c'était très très important, parce que ça n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, l'opinion publique est sensibilisée, a conscience de ces enjeux, Mais on peut se demander, est-ce que c'est suffisant pour répondre à l'urgence climatique? Et quelles actions concrètes en faveur de l'écologie peuvent être mises en place? Lesquelles sont envisageables? Lesquelles sont efficaces? Comment penser l'institutionnel, le collectif? Bon, on va faire la première pause musicale. Et Adrien reviendra sur ces questions. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, frightened to live for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, have my head, I want to drown my sorrow.
Et voilà, on retour à Un moment pour la Terre avec Adrien Béjot cette fois.
Oui, alors moi je vais vous présenter du coup les méthodes d'action contre justement pour les manifestations pour le climat. Alors, et pourquoi on agit seulement maintenant, quand on sait que le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows et le rapport de la limite de la croissance datent de 1968 et de 1972, donc des rapports qui ont plus de 50 ans, et qui sont les premières études importantes pour l'environnement et le futur de l'humanité. Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un sentiment de ne pas être concerné par ces préoccupations environnementales que les choses se passeraient dans le futur, et donc il n'y avait pas de nécessité à passer à l'action. Et c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire que l'humain, s'il n'est pas confronté directement à un problème, s'il sait qu'il y aura un problème dans le futur, il ne va pas avoir la nécessité d'agir tout de suite. Il va préférer rester dans son confort. Et c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans l'histoire, notamment au cours du siècle dernier avec les deux guerres mondiales. Et on voit qu'il y a différentes réactions face à cette dissonance cognitive. Il va y avoir trois types de personnes. Il va y avoir les personnes qui vont accepter de changer de comportement, ce qui va être pour eux très coûteux en énergie. Il va y avoir les personnes qui ne vont pas vouloir voir le problème, donc les climato-sceptiques et les personnes qui vont refuser de passer à l'action. Et il y a ceux qui vont minimiser leurs actions et leur impact sur le climat. Par exemple, ceux qui vont dire « Oh, c'est pas parce que je prends l'avion une fois par an que ça va changer les choses. Ce n'est pas parce que moi, je trie pas mes poubelles que ça va faire quelque chose de pire. » Et ces deux types de personnes, donc les climato-sceptiques et ceux qui minimisent leurs actions, ne veulent pas changer de comportement parce qu'en fait, changer de comportement va être très coûteux en énergie, mais ne va pas débloquer de récompense dans le cerveau. En fait, ça va pas être comme quand on prend des bonnes résolutions d'une année à l'autre où on va dire bah, « je vais faire du sport » et où là, on va voir les résultats à la fois sur sa santé, mais en même temps, on va libérer de la dopamine dans son cerveau, ce qui va nous récompenser. Changer de comportement pour l'environnement, il n'y aura pas d'effet direct. Le changement climatique ne va pas s'arrêter parce que on se met à trier nos poubelles, à ne pas prendre la voiture, etc. On va pas avoir plus de bourdons dans son jardin tout de suite. Et du coup, on va un peu se décourager parce qu'il ne va pas y avoir de résultats immédiats, ce qui fait que les gens ont moins tendance à agir dans la longueur et à faire de petites actions, on va dire, ponctuelles. C'est aussi dû au fait qu'il y a trop d'informations négatives qui sont données sur ce changement climatique, ce qui a tendance à décourager les gens et les pousse à moins agir. Donc cependant, on voit qu'aujourd'hui, les gens sont confrontés directement au changement climatique. Ce n'est plus une fiction, mais quelque chose de réel. Et donc, il y a une nécessité d'agir, voire de réagir tout de suite dans l'immédiat. Et c'est pour ça que je vais vous parler donc des actions à l'heure actuelle, mais des actions collectives et non pas des actions individuelles dont Léa parlera plus tard. Donc tout d'abord, on peut parler du niveau politique d'action, donc soit les actions du pouvoir public face au changement. En France, on voit qu'il y a deux échelles, donc un niveau d'action local et un niveau d'action plus global et général, donc le niveau national. Donc tout d'abord, le niveau local qui va permettre à une échelle plus petite de mettre les choses en application plus facilement. Donc tout d'abord, on le voit au niveau des communes. En France, il y a 36 000 communes, pardon, et dont 2 millions de Français sont dirigés depuis l'année dernière par des mairies écologistes, chose qui n'existait pas il y a encore 5 ans, même 2 ans, ce qui représente 2,8% de la population, dont 36 communes qui sont exclusivement dirigées par le mouvement politique Europe Écologie Les Verts. Sans compter les différentes alliances, etc. Cependant, on voit qu'une immense majorité des communes françaises dans les milieux ruraux sont sans étiquette, ce qui représente 21 millions de Français qui sont gouvernés par des maires sans étiquette. Mais ces mairies sont souvent les pionnières de la transition écologique locale, avec par exemple des actions qui vont de la production d'énergie locale, des cantines bio, de l'agriculture paysanne, la construction durable de bâtiments publics, donc de cantines, d'écoles, de mairies ou des bâtiments sociaux. Le problème, c'est que toutes ces mairies vont se heurter à un manque de moyens financiers pour faire plus et continuer cette transition locale. Cependant, on voit que c'est également l'échelle la plus proche des gens et souvent beaucoup plus pratique qu'une communauté de communes, car vraiment, on a une connaissance parfaite pour une petite commune des habitants, des problèmes qui sont vraiment internes à la commune. Et donc, on va pouvoir agir plus directement. Ensuite, on a une échelle un peu plus grande, donc la communauté de communes ou les PETR, les pôles d'équilibre territorial et rural, qui sont au nombre de 1000, à peu près 1000 pour les communautés de communes en France et 124 pour les PETR, qui sont une échelle un peu plus large, mais tout à fois toujours aussi proche des gens. Donc, qui vont pouvoir, par différentes plans et programmes qui ont été lancés par le gouvernement, agir pour la protection de l'environnement. Alors notamment avec le PCAET, le plan climat air énergie territorial, donc qui va limiter l'impact global du territoire, avec le PLPDMA, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le PLH, le plan local de l'habitat, ou le PLUI, le plan local de l'urbanisme intercommunal. Donc tous ces plans et programmes qui vont aider à passer à une transition locale dans une intercommunalité. Donc quelque chose vraiment proche des gens, avec une connaissance des problématiques locales et du territoire, mais avec en même temps un pouvoir politique assez fort pour pouvoir agir et initier la transition. Après, on retrouve d'autres actions qui commencent à apparaître au sein de l'échelle locale, donc des actions déjà des citoyens, donc comme le nettoyage de la nature ou le nettoyage de sa commune, des concertations à échelle locale de l'environnement qui sont beaucoup plus simples qu'une concertation à échelle nationale. Et on retrouve également des innovations comme les micro-grids, qui sont les micro-réseaux électriques, donc qui sont en fait une production d'électricité locale qui va permettre d'avoir moins de pertes électriques sur le transport d'électricité. Il faut savoir que sur une ligne très haute tension, tous les 1500 km, on va perdre 50% de l'énergie par effet joule, donc par réchauffement. Et ces micro-réseaux vont permettre d'avoir à la fois une production, une gestion intelligente et un stockage local, et d'avoir possiblement des territoires autonomes en énergie. Et maintenant, si on veut parler de la politique à une échelle plus globale, une échelle nationale, on va avoir quelque chose qui va plus être dans la législation. Donc on l'a vu avec la loi climat et la convention citoyenne. On le voit également pour les aides fournies par l'État, par exemple pour rénover son habitation et pour la rénovation énergétique. On le voit également par les réformes des programmes scolaires qui maintenant inclut la protection de l'environnement de la primaire jusqu'à la fac, et ce notamment en réaction à toutes les manifestations et aux grèves scolaires les vendredis des lycéens, et où le gouvernement a fait venir des scientifiques, notamment Jean Jouzel, pour parler justement de la rénovation de ces programmes scolaires pour y inclure une notion climatique. Donc on voit que des mesures de l'État viennent de plus en plus, mais des mesures qui sont toujours un petit peu lentes. L'année dernière, il y a eu l'interdiction des pailles et des couverts en plastique. Cette année, c'est l'interdiction des confettis, je crois. L'année prochaine, il y aura une autre chose. Bon, à ce rythme-là, c'est quand même assez long, ça prend du temps. Et il y a de nombreuses personnes qui aimeraient des mesures beaucoup plus radicales. Et c'est là qu'arrive la question de la dictature verte ou de la tyrannie bienveillante, donc qui serait de prendre des mesures radicales qu'individuellement nous ne prendrions pas, comme par exemple l'interdiction des téléphones portables, qui sont très très polluants, l'interdiction des déplacements en voiture non essentiels, donc malheureusement actuellement nous sommes en plein dedans mais pour une autre raison, ou l'imposition d'un quota carbone avec toujours le spectre de l'amende. Et c'est des choses qui sont beaucoup pointées du doigt par les opposants politiques, ce qui amène les termes de Khmer Vert ou d'éco-fasciste sur le terrain, dans un but d'apeurer et de montrer du doigt ce genre de mouvement. Cependant, en fait, on se rend compte que de nombreux scientifiques, économistes et philosophes ne partent pas du tout sur un modèle politique de dictature verte, mais plutôt sur de démocratie écologique, parce qu'en fait, on arriverait à avoir beaucoup plus facilement le consentement de la population en incluant cette population dans les mesures, dans la prise de mesures. Si on faisait passer des réformes en incluant la population dans le vote, par une démocratie directe, cela marcherait beaucoup plus que si la population était contrainte par une dictature, ce qui n'amènerait que la méfiance et la défiance de la population. Il faut savoir que le plus grand nombre gagnerait dans de telles mesures et dans une démocratie, parce qu'en fait, si on parle en termes d'équité, de rationnement et de privation de liberté, la plupart des gens aujourd'hui en France ne peuvent pas se permettre de prendre l'avion pour partir en vacances, ne peuvent pas se permettre d'acheter des choses à outrance, et ce serait un petit nombre qui surconsomment, qui seraient plus privés plutôt que la majorité qui, au contraire, verrait leur liberté un peu accrue. Donc voilà, c'était pour parler de politique et de l'engagement politique depuis les marches climat. Maintenant, si on parle un peu de militantisme et de désobéissance civile, donc qui est justement la réaction face à l'inaction politique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître depuis quelques années, notamment par la contestation et les manifestations et les marches, dont celle de dimanche dernier avec l'invitation de FNE. Je vais prendre donc différents exemples, différents mouvements, donc Greenpeace par exemple, qui propose des actions militantes pour répondre à l'inaction climatique, comme récemment où ils ont peint un avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en vert pour dénoncer le greenwashing qu'opèrent les compagnies aériennes. Ils avaient été également, avec le Rainbow Warrior 1, dénoncer les essais français nucléaires en Polynésie, et ils avaient eu leur navire coulé en 1985 par les services secrets français, ce qui avait fait à l'époque un mort. Aujourd'hui, il y a de nouveaux mouvements qui apparaissent, comme le mouvement Extinction Rebellion, qui a été formé en 2018 et qui revendique l'usage de désobéissance civile non violente, donc sur un modèle qui a été fondé par Gandhi, et qui incite le gouvernement à agir par ses actions et qui, en même temps, va informer les citoyens par leurs actions. Par exemple, ils bloquent l'accès à de nombreux lieux, alors soit les sièges de grands groupes très polluants, soit en Suisse, il y a eu le blocage d'une place près du Parlement pour inciter le gouvernement à exiger la neutralité carbone d'ici 2030. Donc ce qui a marché, ils sont restés plusieurs jours sur la place. Mais c'est un groupe qui coopère aussi avec les politiques, comme dans la ville du Mans, où la mairie a décidé de faire venir certains membres du mouvement Extinction Rebellion pour créer dans la ville des bus à hydrogène. Et on voit également dans la ville de Paris, en 2018, la maire, Madame Hidalgo, avait soutenu le blocage de la circulation en appuyant le fait que ces manifestations étaient non violentes, donc en apportant son soutien. Et on a un troisième mouvement, le collectif de la Ronce, qui, lui, lutte contre les multinationales par des actions non violentes également, par le sabotage de produits, soit en supermarché, soit dans des stations-service, dans un objectif de rendre impossible à utiliser les différents produits, comme par exemple du sucre, du désherbant chimique, etc., pour dénoncer l'usage de néonicotinoïdes, de glyphosate, etc. En ayant pour un peu philosophie le fait qu'on ne peut pas gaspiller une arme quand on la détruit, et qu'ils incitent en disant que ce n'est pas du gaspillage ce qu'ils font. Et enfin, donc, pour une action beaucoup plus globale qui avait été imaginée dans les années 60-70, je vais parler maintenant de géo-ingénierie. Donc, c'est l'idée que la science, à une échelle planétaire, peut limiter les dégâts, notamment en limitant le réchauffement climatique, en injectant, par exemple, dans l'atmosphère différentes particules. Alors, c'était une idée qui était très à la mode dans les années 60-70, à une époque où la science-fiction prenait beaucoup ces choses-là en compte. Et quand on s'est rendu compte qu'on pouvait détruire le climat par l'action humaine, on s'est demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas le réparer globalement par l'action humaine? Alors, il y a plusieurs choses qui pourraient être mises en valeur, comme le fait de la reforestation, qui permettrait un captage du CO2 en plantant d'immenses forêts un peu partout dans le monde. Cependant, en fait, les forêts ne vont pas capter du CO2 comme cela magiquement. C'est un peu plus complexe que cela, et il y aurait de même une grosse perte de biodiversité en implantant des forêts sur des territoires qui ne sont pas prévus à cet effet, ou de terres agricoles qui pourraient nourrir les humains, ou alors tout simplement une perte du réfléchissement solaire, ce qui fait qu'en fait on capterait beaucoup plus les rayons solaires et donc la Terre continuerait malheureusement de se réchauffer par effet d'albédo. On a également une idée qui serait d'alcaliniser les océans, donc d'augmenter l'acidité des océans pour développer les phytoplanctons qui, eux, viendraient capturer le carbone. Malheureusement, ça serait la même chose. Déjà, on polluerait les océans et on aurait une immense perte de la biodiversité. Et l'idée la plus commune et la plus répandue, ça serait d'injecter dans l'atmosphère des particules qui soit limiteraient le CO2 ou qui renverraient les rayons solaires pour éviter le réchauffement et ce qui serait, entre guillemets, une action dite finale, l'action de dernier recours contre le réchauffement climatique. Alors, c'est des méthodes qui sont assez peu coûteuses, mais qui posent un gros problème d'éthique. On sait que l'homme domine déjà la nature, mais là, ça serait carrément la domination à une échelle planétaire, tout d'un coup, avec des conséquences souvent désastreuses, à la fois pour la biodiversité, avec des changements souvent brutaux, qui amèneraient une rupture directe des écosystèmes, et qui amèneraient également des conflits entre les régions, des conflits humains. Car en effet, si on veut faire de la géo-ingénierie, il faut l'accord de tous les États, de toute personne sur Terre. Et à l'heure actuelle, c'est totalement impensable. Et en fait, ça nous inviterait non pas à changer notre comportement, mais à continuer dans la même lancée et à repousser encore nos limites, à dire « c'est pas grave, ce sera la génération suivante qui réglera le problème avec la géo-ingénierie ». Donc en fait, on rentrerait dans le même modèle que nos aïeux dans les années 60-70, où on repousserait le problème sur les générations suivantes et on ne changerait pas notre comportement. Voilà, je vous laisse avec la deuxième pause musicale avant de retrouver Léa pour la dernière partie.
How do we sleep while
Donc, Adrien a parlé de la géo-ingénierie, c'est-à-dire, enfin, donc les solutions technologiques qu'il a proposées signifiaient de renvoyer en fait un peu la responsabilité sur la génération suivante, sur la prochaine jeunesse. Et c'est vrai que c'est intéressant de s'arrêter sur cette question de génération et de jeunesse, parce que, comme on a pu le dire, aujourd'hui, on ressent déjà cette espèce d'urgence. Et ce qui est dit aujourd'hui dans les médias, c'est que la jeunesse ne peut pas ne pas se sentir impliquée, double négation. Et donc, du coup, ce serait la particularité des jeunes d'aujourd'hui, donc de nous, des gens de notre génération. Et on entend beaucoup parler de millénials, génération Y, génération Z, donc qui sont des mots très à la mode pour désigner cette jeunesse qui est née donc dans l'informatique, dans le numérique, qui n'a pas connu la guerre froide, qui, il y a beaucoup d'études sur la question, et qui est arrivée dans un monde où l'écologisme était déjà grand public, ce qui n'était pas le cas avant les années 85, on va dire. Et donc aujourd'hui, dans les luttes écologistes, la jeunesse est souvent mise au premier plan. On a pu voir que dans les marches du climat, et non pas seulement les grèves, la jeunesse n'est pas forcément au premier plan. Alors pourquoi mettre autant la jeunesse en avant? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors qu'il y a un véritable mouvement intergénérationnel. Adrien a pu nous faire un panorama des solutions politiques collectives, et on voit qu'aujourd'hui, enfin, les décideurs politiques ne sont pas les jeunes. donc pourquoi parler autant de la jeunesse et de l'écologie? Il y a plusieurs pistes. D'abord, donc les grèves scolaires qui ont été quand même très très médiatisées et très très popularisées en 2019 sont le fait des jeunes, mais elles restent cependant marginales dans toutes les actions en faveur de l'écologie. Ensuite, on peut dire que la rhétorique de l'enfant victime est un outil efficace pour mobiliser. Donc c'est quelque chose qui a pu être saisi. Cependant, il y a un vrai risque de dépolitisation de l'écologie si on en fait un combat générationnel, en fait. Ça a moins d'impact si on dit c'est aux jeunes de s'en occuper. Voilà. Ça le sort un peu du champ politique et on passe la patate chaude aux jeunes. Mais surtout, lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est qu'est-ce que la jeunesse? Est-ce qu'il existe vraiment une jeunesse? Ou c'est pas plutôt une construction sociale? On projette des valeurs et des idées depuis toujours dans d'autres luttes, ça a déjà été le cas. On donne à la jeunesse une espèce d'idéal de créativité, de fluidité, de liberté. Et donc, du coup, on projette des idéaux entre ce passage de l'enfance à l'âge adulte qui ne sont pas forcément vrais ne reflètent pas forcément la réalité. Il n'y a pas vraiment une jeunesse unique, et c'est difficile de tout réunir. Et en effet, on voit que les jeunes et l'écologie, il y a une étude du Crédoc pour l'ADEME qui date de 2019, qui étudie donc les consommations, les modes de vie des jeunes et leur rapport à l'écologie. Et cette étude statistique a soulevé beaucoup de paradoxes, en fait. Elle montre une profonde inquiétude donc, des jeunes pour la question écologique. Les tranches d'âge, c'était 15-17, 18-24. Ils montrent qu'ils sont extrêmement inquiets. C'est vraiment leur préoccupation principale. Cependant, que dans leur quotidien, dans leur comportement, ils ne sont pas toujours, en accord avec cette inquiétude. Ils ne sont pas forcément donc, très mobilisés au niveau associatif, même pour les marches. Et au quotidien, ils vont tendanciellement moins trier les déchets, faire moins d'achats responsables, moins de légumes de saison, par exemple, et plus d'achats électroniques. Ça, ce sont des tendances statistiques qui reflètent... ça reste des statistiques, mais du coup, on voit ces comportements tout en voyant qu'il y a vraiment une capacité de mobilisation collective dans les collectifs qu'a pu citer Adrien, dans les marches, etc. Et donc, c'est des points de paradoxe, voire de contradiction, en fait, où on n'arrive pas à adapter ce qu'on pense, les idéaux, avec les actions. Et, et qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment une seule jeunesse, mais des jeunes, avec des jeunes beaucoup plus mobilisés, des jeunes beaucoup moins mobilisés, que c'est un peu compliqué de parler en termes de génération, parce que c'est très fragile pour penser, parce qu'il y a aussi la question territoriale, la question des classes, la question culturelle. On voit bien que les combats environnementaux, aujourd'hui, diffèrent selon tous ces aspects, et qu'on se sent plus ou moins impliqué, en fait. Donc du coup, par contre, les deux points, on note vraiment un changement chez les jeunes. Ça va être vraiment donc les transports et les achats d'occasion. Donc au niveau des transports, les jeunes ont adopté des habitudes où ils se détachent relativement de la voiture et vont aller vers des modes de transport doux ou de l'autopartage ou du covoiturage. Et donc ça, c'est vraiment un point assez nouveau dans les habitudes. Et le deuxième point, donc, c'est les achats d'occasion, la location, le troc, donc ce qu'on appelle l'économie de partage. Et en fait, ces choses-là, c'est très intéressant parce que ça montre un changement d'habitude, mais ça ne remplace pas le fait qu'on continue d'acheter et de consommer neuf, toujours plus, de faire les soldes, etc. Et donc, ce changement d'habitude qui tend à des pratiques plus responsables ne vient pas remplacer les pratiques consuméristes et classiques. Donc je pense qu'il va être bientôt temps de conclure. Donc on a pu aujourd'hui voir donc partir de ces marches pour le climat, donc qui ont aujourd'hui le grand bénéfice d'avoir fait entrer la question écologique dans le débat public, de la nourrir, de la populariser, mais qui rencontre quand même assez vite des limites, parce que malgré toutes ces mobilisations, on a vu avec Adrien que les mesures politiques sont très lentes, ont du mal à se mettre en place face à l'urgence climatique dont on ne va pas répéter les chiffres sans cesse, et qu'il y a donc d'autres moyens d'action, qu'il y a peut-être une clé au niveau du local, et que le militantisme et la désobéissance civile trouvent énormément d'écho aujourd'hui dans les milieux écologistes. Et enfin, que cette fameuse jeunesse et ce raisonnement par génération n'est pas toujours le plus efficace. Il y a des points positifs à dire qu'aujourd'hui, les jeunes s'engagent, mais c'est très limitant. Voilà.
Merci Léa, merci Adrien pour ces explications très claires et votre implication dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la défense de la nature en général. Merci à vous. On retrouve cette émission donc sur notre site www.frequencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans Émission, un moment pour la Terre. Merci encore.
Merci.
Au revoir.
Merci.